une histoire particulière. Le petit port de la Cotinière est le premier port de pêche de Charente-Maritime. Ce port, aux bateaux bariolés, est spécialisé dans la capture des espèces nobles avec des techniques de pêche respectueuses de la qualité. On y débarque des soles, des bars, des langoustines, homards, crevettes et une spécialité locale, un petit poisson plat, très apprécié des connaisseurs. La Cotinière, un port animé au rythme des marées où il fait bon vivre. Un petit paradis en somme. Sauf le 11 août 1996, la fête de la mer est devenue cauchemar, comme vous le racontent tout de suite Clémence Marie et Rafik Zénine.
France Inter.
Ce devait être une fête de la mer comme il s'en déroule sur tout le littoral. Elle a tourné à la tragédie hier. Le port de la Cotinière sur l'île d'Oléron célébrait ses marins. Tous les bateaux avaient embarqué des invités, la famille ou les proches pour une promenade au large et une bénédiction en mer. Mais l'un des bateaux de pêche, un petit chalutier de 12 mètres, l'Essor, a chaviré, déséquilibré par une vague plus forte que les autres. Le bilan est lourd. 4 personnes sont mortes noyées, dont la petite fille du capitaine. 5 autres sont portées disparues. En tout, 42 personnes ont été repêchées, mais toutes n'étaient pas sur le bateau naufragé. Plusieurs témoins du drame ont sauté à l'eau pour venir au secours des passagers. 12 de ces personnes ont été hospitalisées.
Duel en mer, les cicatrices d'un port. Fortune de mer. En droit maritime, c'est par ce terme que l'on désigne les accidents de bateaux liés au mauvais temps et aux aléas des flots. Pour tout marin, difficile de faire comprendre aux terriens cette fatalité. Sur l'île d'Oléron, les drames sont nombreux, mais celui de l'Essor reste un cas à part. 20 ans après, le port touché au cœur assume toujours cette mémoire collective. Une mémoire qui informe sur la condition des hommes de mer, pour qui l'océan apparaît tour à tour comme ami ou ennemi. Thierry Sozo, historien.
Alors le port de la Cotinière, il a quelque chose de particulier. C'est presque un cas unique dans le sens où c'est une création totale, une création portuaire de la fin du 19e siècle jusqu'en 1860. Ici, il y a juste un abri entre les rochers où certains navires viennent s'échouer lorsqu'il y a des tempêtes, notamment. Et puis, à partir des années 1860, on va professionnaliser la pêche sur l'île d'Oléron et on va se servir des qualités d'abri de cet endroit qui est la Cotinière pour créer un véritable port de pêche. Donc ça veut dire des aménagements tels qu'on les a sous les yeux, des jetées, puis quelques bâtiments qui sont des bâtiments d'exploitation. Et en quelques dizaines d'années, hein, jusqu'à la veille de la guerre de 14, eh bien, on fait sortir de terre un port de pêche avec pratiquement une centaine de bateaux à la veille de la guerre de 14. Alors le port, il a changé parce qu'il a évolué, il a adopté des techniques de plus en plus modernes, des bateaux de plus en plus puissants, mais il y a quand même une composante qui est assez essentielle, qui est le navire qui fait 12 mètres de long, qui peut être en bois ou en plastique, mais il y a encore de nombreux bateaux en bois ici, et qui pratique vraiment une pêche polyvalente. Ça veut dire que quand c'est la saison des coquilles Saint-Jacques, ben on arme à la drague et on va ramasser les coquilles Saint-Jacques sur le fond de la mer. Lorsque c'est la saison des sèches, on pêche la sèche. Lorsqu'il faut poser des lignes, on pose des lignes. Et puis, on est capable également, sur ce type de bateau, de traîner le chalut lorsque il y a du merlu ou autre chose. Et ça, c'est vraiment une spécificité de la Cotinière, avec évidemment également une autre composante qui est particulière, c'est une forte transmission familiale du métier maritime, parce que ce sont des petits métiers que l'on apprend bien sûr un peu à l'école, mais beaucoup en restant à bord du bateau d'un oncle, d'un père ou d'un grand-père.
Tout l'horizon n'est qu'un blême rideau. La vitre teinte et ruisselle de gouttes. Sully Prudhomme l'a écrit ainsi, le ciel du Poitou-Charentes aujourd'hui également. Chute magistrale du thermomètre, 18 à Poitiers et à Niort, 19 à La Rochelle, bon 22 degrés à Angoulême, la ville la plus chaude de la région aujourd'hui. Demain, on recommence avec pluie et averses parfois fortes. Lundi sera plus serein. Dimanche, demain donc sur les côtes, le vent soufflera de sud-ouest 4 à 5 Beaufort, avec des rafales tournant à ouest-nord-ouest 4 à 5 Beaufort, la mer sera agitée.
Bonjour.
On va vous laisser faire votre petit train
à tour. Ah ben c'est fini.
Il n'y a pas de choses à...
Non. Et ben, je vous appelle ceci.
Ok, on va demain.
Vous êtes parti à quelle heure ce matin?
4 heures.
Vous avez ramené les choses?
Non, rien, c'était nul. On aurait mieux fait de rester couché.
Vous êtes pêcheur depuis combien de temps?
31 ans, dans un mois. Pas 31 ans que j'ai mon fascicule.
Et combien de temps que vous avez un bateau?
Et combien de temps que j'ai le bateau? Faut calculer 23 ans. 1994. Ouais, c'est ça.
C'est quoi comme type de bateau?
Nous, on est sur un... Bah là, c'est un, on va dire, un palangrier fileyeur, parce qu'il y a une partie de l'année où on ne fait pas les filets. On fait la pêche à l'hameçon, donc on est palangrier. Et puis après, une autre partie de l'année où on est au filet.
Vous partez dans n'importe quelle circonstance?
Dans n'importe quelle circonstance? Ben non, non, la preuve, là, ça fait 3 jours qu'on ne sortait pas, parce qu'il ne faisait pas beau. Et puis là, ce matin, il y avait un petit créneau où ça se calmait. On a dit, on va y aller. Et puis demain, bah, apparemment, si la météo change pas, on n'ira pas. Après-demain, on n'ira pas. Et puis après, bah, ça doit se remettre au beau vendredi. On ira.
Ça vous est souvent arrivé de sortir avec une mauvaise météo? D'affronter des tempêtes?
Bah non, on risque de passer pour... Oui, il y a eu des fois. Enfin, c'était... Ouais, c'est de la houle, des grosses houles. Oui, ça nous est arrivé que la houle se faisait et de rentrer avec de la grosse houle. Bon, après de la dire prise de risque, je sais pas, c'est le métier. Fallait y aller, on y allait, on a fait notre boulot. Après, fallait rentrer, il y avait de la houle, oui, il faisait pas.
À propos du drame de l'Essor, qui est le drame qui a quand même marqué le plus l'histoire du port, tout le monde se rappelle de ce qu'il faisait au moment où ça s'est produit.
Ah bah oui.
Vous vous rappelez aussi?
Oui, vous êtes très bien. J'arrivais, j'étais en retard, comme on me dit souvent, t'es toujours en retard. Donc moi, ben, je passais la barrière là du port et les gendarmes m'ont dit, vous ne rentrez plus, il vient d'y avoir un naufrage. Et ben, un collègue qui rentrait, qui venait de poser ses passagers, qui m'ont dit, ben, viens avec nous, on ressort, on va chercher. Et puis voilà, je suis parti avec eux. Ben, il n'y avait pas le choix, hein, les bateaux qui étaient autour, les gens qui remontaient en surface, qui ont eu la chance de ne pas être crochés dans des filets... Évidemment qu'ils ont été ramassés et récupérés aussitôt. Et que ce soit par des bateaux de pêche, il y avait des jet skis qui les ramassaient, qui les remettaient à bord des bateaux de pêche. Ça s'est organisé du mieux que ça a pu dans l'urgence, quoi.
Relax, un mot pour deux prévenus qui attendaient le verdict depuis le 24 janvier dernier. Loïc Rioux, le patron de l'Essor, et Elisabeth Boussiron, qui présidait alors le comité des fêtes. 10 personnes avaient péri dans ce drame, 14 autres avaient été blessées. À sa sortie du palais, bordé par le sourire généreux de son avocat, le patron de l'Essor avait probablement ancré au cœur la mémoire des disparus, parmi lesquels 6 membres de sa famille. Pudeur et réserve d'un marin ne s'autorisant qu'une très brève déclaration, la première consentie à la presse depuis ce jour d'août 1996, c'est un moment de soulagement, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu. Sud-Ouest, 21 février 2001.
Maître Bonin, vous étiez l'avocat du capitaine du bateau, Loïc Rioux. Est-ce que vous aviez déjà traité ce genre d'affaires auparavant?
Pas spécialement, et puis en plus, c'est une affaire tellement exceptionnelle que je pense qu'il y a peu d'avocats en France qui aient été amenés à plaider sur de tels cas. Alors, l'instruction a été relativement longue, puisqu'il n'y a eu pas moins de 3 expertises. Une première expertise qui a donné plus ou moins tort à mon client. Une seconde expertise... qui l'a complètement dédouané. Le nom de l'expert, c'est M. Clouet. Là, je m'en rappelle parce que c'est vraiment une personnalité. Et du coup, il y a une troisième expertise où c'était mi-figue, mi-raisin. Donc, on est arrivé en fait au procès avec un certain flou artistique, puisqu'on n'avait pas vraiment de mesures d'instruction qui allaient dans un sens ou dans l'autre, à part cette fameuse expertise de M. Clouet.
Et le procès a eu lieu donc quelques années après le naufrage de l'Essor?
Oui, puisqu'il a eu lieu au début de l'année 2001.
Et pendant toutes ces années, quel était votre rôle auprès de Loïc Rioux?
Écoutez, je crois que le rôle d'un défenseur, c'est de soutenir son client, Il en avait bien besoin, puisque vous savez qu'il a perdu 7 membres de sa famille dans le naufrage. Il y a eu 10 victimes, enfin 10 morts, plus des blessés. Mais il a perdu sa propre fille, Gwénoline, qui avait 7 ans à l'époque. Et c'est quelqu'un qui, à mon sens, n'a tenu le coup que parce qu'il était croyant. À telle enseigne d'ailleurs qu'il y a eu des victimes, et notamment un petit garçon et sa mère belge, et que ils ont pris l'initiative, donc les faits se sont produits en août, et au mois d'octobre ou novembre, avec le prêtre de la paroisse de la Cotinière, ils sont allés en Belgique rendre visite aux victimes. C'est quelqu'un qui était, vous savez, on parle souvent des marins de la Cotinière comme des gens qui se livrent un peu à la boisson, enfin sont assez excessifs ou même à d'autres addictions. Mais lui, vraiment, il avait 0 g, 0 le jour, alors que ça se fait après le repas de famille, hein, ce genre de manifestation. Le procès a démontré qu'il y a eu un élan énorme de solidarité. Je me souviens que le jour même du procès, je suis arrivé devant le tribunal avec un paquet énorme de pétitions et 7000 personnes avaient signé, sans compter que le jour même du procès, il y a eu une sorte de marche blanche qui a eu lieu à la Cotinière et qui a réuni un grand nombre de personnes. Le procès s'est déroulé au tribunal de Rochefort, qui n'était évidemment pas habitué à avoir une telle affluence, à telle enseigne d'ailleurs qu'il y a eu la salle d'audience qui était en bas au tribunal, et il y avait une deuxième salle d'audience en haut, et on a installé des caméras, et les gens ont pu suivre, les gens qui ne pouvaient pas rentrer dans la salle ont pu suivre le procès, donc au premier étage.
Quels étaient les chefs d'accusation retenus contre lui et les parties en présence, Maître Bonin ?
Alors, il y avait non-respect de la réglementation, puisque, en fait, l'accusation considérait que le bateau était en surcharge. Ça, c'était le gros point de départ, en fait, de la procédure. Et aussi, évidemment, concomitamment, homicide involontaire. En fait, c'était le but. Alors le procès a été très important, évidemment, dans la mesure où les victimes, les témoins, entre guillemets, enfin quelques témoins, parce qu'il y a eu beaucoup de témoins ce jour-là, évidemment, hein, mais surtout les experts sont venus à la barre. Et celui qui avait rendu un rapport favorable à Loïc a été extrêmement brillant et a écrasé complètement les autres experts. Si bien que je crois que ça a été un élément déterminant ensuite pour que le tribunal aille en voie de relax au bénéfice de Loïc et de Madame Boussiron d'ailleurs. La lame sourde a commencé par faire basculer le navire et ensuite la houle l'a renversé complètement. Le patron avait arrêté le moteur, avait essayé de redresser. Et sur le plan de la technique, nous avons démontré, je crois, avec l'aide de cet expert, que on ne pouvait pas lui imputer une faute. Ce qu'il faut quand même vous dire aussi, c'est que ces fêtes de la mer attiraient énormément de monde. Il y avait des centaines de personnes qui montaient sur les bateaux, et que Loïc, par rapport aux autres bateaux, était celui qui était le moins chargé. Ils n'avaient pas compté les gens qui montaient, mais effectivement, les 46 personnes sur le bateau, par rapport à des volumes de pêche, par exemple, ça a été cité au procès, qui, quelquefois, sont, heureusement pour les marins, énormes, c'était rien, quoi. D'ailleurs, le procureur de la République n'a pas interjeté appel de la décision, ce qu'il aurait pu faire. La partie civile, également, n'a pas souhaité faire appel. Ce qui ne reste pas moins vrai que ça va marquer mon client et d'autres, et bien sûr toutes les victimes à jamais. Le problème de Loïc, c'est que c'est pas le procès qui va le dédouaner de la responsabilité et du chagrin en même temps qu'il pèse sur lui.
père Paul Guilloton, nous nous trouvons dans la petite chapelle de la Cotinière, qui est située en bord de mer, entre la criée et la plage. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cette chapelle a de particulier ?
Elle a de particulier d'avoir été construite justement sur le port de pêche, en lien avec la population locale, qui était faite à l'époque essentiellement de marins-pêcheurs. Cette chapelle a été édifiée dans les années 1966 ou 68. Voilà. Depuis lors, elle servait surtout par rapport à la pêche, par rapport à la vie maritime, et maintenant, la population entière s'est appropriée. Alors vous aurez remarqué les vitraux qui sont au fond à gauche là, qui évoquent la mer. Ma foi est toute petite, mais la mer est si grande, alors protège-moi Seigneur, quoi. Voilà.
Vous avez longtemps été curé de la paroisse de l'île d'Oléron.
Pendant presque 14 ans. J'ai fait 14 saisons d'été ici, quoi. De 1990 à 2003. Voilà. Mon rôle est d'être proche de tous ceux qui sont dans la peine. Et Dieu sait si l'occasion des naufrages, il y a de la peine dans le port tout entier, pas simplement les marins pêcheurs, mais toute la population de toute l'île d'ailleurs souffre dans ces occasions-là.
Dans le cas de l'Essor, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'en plus, tout a commencé par des fêtes, notamment...
Ça n'a pas duré longtemps, vous savez. C'était à la sortie du port que l'événement s'est réalisé. Dès que on s'est aperçu que c'était plus chaud qu'on le pensait, donc aussitôt on a voulu rentrer, quoi. Et c'est sur le chemin du retour, tout près de là, tout près de tout. C'est pas rien. Vous avez sans doute remarqué tout à l'heure, devant les croix, vous avez deux caractéristiques pour les marins qui sont décédés. Vous avez péri en mer et vous avez disparu en mer. Vous faites la différence. Péri en mer, c'est quand enfin, on a reçu le corps, rapidement ou moins rapidement. Et là, le temps est long, puisque les gens espèrent toujours retrouver le corps de l'un des leurs, alors qu'en fait, le corps ne dit plus rien. Alors mon rôle, c'est d'être avec, souffrir avec eux, sans se forcer, vous savez, parce que c'est quand même pas rien. Enfin, vous avez vu qu'il y a des femmes et enfants, hein, là-bas. Des enfants qui étaient de la fête, théoriquement, et puis c'est mal tourné, quoi. Alors mon rôle, c'est d'être avec, d'exprimer autant que possible la foi chrétienne, dans la mesure où ils sont chrétiens, et ils le sont à leur manière. Voilà. Mais en même temps, on sait que la mer, ils sont fatalistes un petit peu devant la mer. Voilà, c'est arrivé. Bon, je me suis rendu proche, si vous voulez, dans la rencontre chez eux, ceux qui l'ont voulu. Mais personne ne m'a mis dehors, loin de là. Et en même temps, on ne mesure pas ce qu'on fait. On ne sait pas. Surtout pas de discours, surtout silence, respectons le silence, parce que le drame est tellement profond que les gens sont sans parole. On ne va pas faire la leçon, on ne va pas culpabiliser, il n'y a pas de leçon à donner. D'autres s'en chargent. La vie continue, ça se voit, ça se vérifie ici, plus qu'ailleurs. Parce que c'est tout le port qui souffre, tout le port qui se remet en route, si vous voulez.
Les ports de pêche ont toujours été des endroits où il y avait une foi particulière. Elle était assez différente de celle qu'on pouvait trouver dans l'intérieur des terres.
Thierry Sauzeau.
Alors évidemment, ici, comme partout, il y a eu des christianisations. L'assistance des familles de marins pêcheurs aux offices religieux, elle est devenue proche de zéro, j'imagine. Mais quelque part, effectivement, le rapport à la fatalité, à l'accident maritime, reste quand même quelque chose de... qui renvoie à l'irrationnel, qui renvoie à ce que finalement on essaie d'éviter le plus possible en prenant toutes les précautions possibles et imaginables, mais qui peut quand même arriver.
Après le drame de l'Essor, l'ensemble des mesures de sécurité a été renforcé dans les fêtes de la mer, devenues aujourd'hui les fêtes du port. Si les célébrations de la vie maritime demeurent, c'est la fin des balades en bateau. À l'époque, Elisabeth Boussiron était la présidente du comité des fêtes de la Cotinière. Elle explique son rôle.
Ça consistait évidemment à organiser les animations sur le port et organiser aussi les promenades en bateau, avec certaines conditions évidemment, avec l'aval des affaires maritimes. C'est ça le rôle du président, hein. D'ailleurs, quand il y a un problème, c'est lui qui est responsable. Il y avait toujours un périmètre de sécurité, des barrières, etc. Et puis aussi l'accès au ponton pour les bateaux, qui était contrôlé, puisqu'il fallait tant de personnes par bateau.
Et quel était le but de ces festivités ?
Alors, le but de ces festivités, c'est de récolter de l'argent pour la caisse de secours des Puriers en mer et pour la SNSM. Comme vous le savez, la SNSM, ce sont que des bénévoles, et la caisse de secours, ce sont que des bénévoles qui s'occupent de redistribuer l'argent qui a été récolté aux familles qui sont en peine, qui ont perdu un père, un frère, ou voilà. Hein. C'était ça l'organisation, moi, quand j'y étais. C'est un petit peu changé depuis, pour les raisons que nous savons. Voilà.
Et ces fêtes existaient depuis combien de temps ?
Ça remonte quand même assez loin. Donc après, bon, ça a pris un peu de l'ampleur, mais il y avait toujours des fêtes de la mer, comme on disait à l'époque, hein, avec quelques animations, mais c'était surtout les bateaux. Alors là, il n'y avait pas de contrôle, c'était... Voilà. Et puis, moi, à mon arrivée, j'ai voulu que ça soit quand même contrôlé, et que, parce qu'on sait ce qui se passe. Hein, bon, on ne sait jamais plutôt ce qui peut se passer. Et malgré tout, voilà, il est arrivé ce qui est arrivé. On ne peut pas prévoir, même quand on a essayé de faire le maximum, et ben voilà, il y a une larme sourde qui arrive, qui soulève. Et voilà. Et ça, vous n'y pouvez rien, personne. Et si... C'est pas le seul bateau comme ça à qui c'est arrivé.
Donc vous avez été impliqué rapidement après l'accident. Comment ça s'est passé ?
Bien sûr que j'étais impliqué. Bien sûr qu'on a une responsabilité. Ça vous tombe dessus, boum. Eh ben j'ai pris mes responsabilités et j'ai assumé comme j'ai pu. Je me suis sentie très seule. Heureusement que ma famille était là, quoi. Je pense que la communauté des marins a fait ce qu'elle a pu. Ils se sont quand même mobilisés, certains, il ne faut pas dire. Et puis pour Loïc Rioux. Hein. De toute façon, on était tous les deux, j'allais dire, dans le même bateau, quoi. Lui, il était patron de l'essor, et moi j'étais la présidente, donc on était tous les deux concernés de plein fouet, hein. Et voilà. Il s'est passé ça, il fallait qu'il y ait un procès, on savait, nous, ce qu'on avait fait ou ce qu'on n'avait pas fait. Après, c'est pas nous qui décidons. Voilà. Pour moi, le procès, c'est la date de 96 qui compte.
Quel était votre lien, et quel est votre lien encore aujourd'hui avec le port de la Cotinière et ses habitants ?
Ah mais moi j'ai un lien indéfectible avec la Cotinière, c'est évident. Moi mon arrière-grand-père était pêcheur, mon grand-père était pêcheur, mon père était pêcheur, mon oncle est pêcheur, on a été élevé là-bas quoi, puis c'est important, et puis il s'est passé... moi j'ai perdu mon arrière-grand-père, j'ai perdu mon petit cousin en mer... Et je parle pas d'autres membres de notre famille qui ont péri, hein, donc ou des amis. Donc, enfin, moi, je suis liée, c'est sûr, avec la Cotinière, pour plein de raisons. Les raisons que j'invoque, mais aussi parce que c'est ce port qui fait vivre aussi la commune. Faut pas oublier.
Comment vous envisagez 20 ans après la reprise des fêtes qu'on appelle plus fêtes de la mer? Je le précise.
Oui. Je suis pas contre. Hein. Non, non, non. Ce qu'ils font maintenant, c'est bien. Moi, tous les ans, je vais à la cérémonie des Périers en mer. Mais autrement, pour le reste, moi, je suis complètement, je vais dire, en dehors de ça maintenant. Mais c'est bien qu'il y ait des jeunes qui aient repris. Je ne sais pas si un jour, les marins seront prêts, parce que ça dépend aussi des marins, des affaires maritimes, bien sûr, mais des marins surtout, seraient d'accord pour que ça reparte comme avant.
Fabien Ménard, vous êtes l'actuel président du comité des fêtes qui ont repris l'année dernière en 2016. Est-ce que vous pensiez que ça pourrait aussi servir à apaiser un peu la mémoire 20 ans après et peut-être à pas tourner la page mais retrouver une forme de légèreté dans le port et chez les marins pêcheurs?
Non, on ne peut pas tourner la page sur un drame comme ça, comme a été fait avec l'Essor. On peut pas tourner la page sur un truc comme ça. Après, par contre, bon, bah, il faut se dire une chose, c'est que c'est une génération de passé. Les jeunes, ils sont pour rien, ils n'ont jamais connu vraiment les fêtes de la mer. Et ben, c'est à nous de leur redonner l'envie de refaire la fête sur le port, sans oublier quand même ses pensées, puisque dans la priorité de cette fête du port, ben, le matin, c'est surtout la messe, emmener les germes en mer et tout ça. Donc c'est vraiment, ça reste quand même une communauté qui est quand même assez soudée. Tout le monde revoit son drame, revoit tout ça, ses familles disparues, on va tous relancer quelque chose en mer pour cette pensée-là, après on repart sur une fête pour essayer de remplir ces caisses-là, tout pareil, hein, c'est pas... Mais on peut pas dire que ça va l'apaiser, le drame il a été là, non, il faut penser que les jeunes qui arrivent derrière, ben, ils ont pas connu ça, donc il faut aussi leur donner envie de continuer eux aussi de faire la fête ici, quoi.
Pendant très longtemps, et jusque finalement à la création du port de la Cotinière, le naufrage c'était quelque chose qui était très courant sur l'île d'Oléron. Ce qui fait que les Oléronais, avant que la Cotinière ne devienne un port et qu'ils expérimentent eux-mêmes le drame que constitue le naufrage, les Oléronais étaient avant cette période-là plutôt des terriens qui regardaient le naufrage comme quelque chose qui vient de l'extérieur. Et effectivement, à partir du moment où la Cotinière est créée en tant que port de pêche, alors le rapport au naufrage va changer de signification. Le naufrage, désormais, c'est quelque chose qui peut toucher la communauté, alors qu'auparavant, on était charitable, on assistait les naufragés, mais on n'excluait pas la possibilité de se livrer à ce que les autorités appelaient des pillages, ce que les gens d'ici appelaient le ramassage, parce que... Voilà, lorsque la mer vous apporte quelque chose et que vous ne savez pas d'où ça vient, vous ramassez. Bah, le jour où c'est un naufrage et que vous avez aussi la possibilité de ramasser, bon, c'est pas tellement différent, quoi. Contrairement aux clichés qu'on peut avoir, aux images qu'on peut nourrir depuis qu'il y a les transats, les grandes compétitions, les courses au large, etc., la mer, c'est pas un élément vers lequel les gens se tournent naturellement, y compris lorsqu'ils vivent sur le littoral. Donc ce rapport terre-mer, il ne relève pas de l'évidence. Il relève plutôt de la nécessité économique. Dans une île comme Oléron, qui est plutôt une île avec des activités agro-maritimes qui peuvent dispenser les gens pendant très longtemps d'aller sur la mer et de prendre les risques qui vont avec, ben on est plutôt terrien que marin. Et puis, ben à partir du moment où il y a une opportunité, alors on se rend compte que le terrien peut être intéressé par l'activité maritime. Mais c'est pas quelque chose d'automatique, c'est pas quelque chose d'inné. Il n'y a pas de vocation maritime.
Duel en mer, les cicatrices d'un port. Avec Thierry Sozo, Franck Métaux, André Bonin, Paul Guilloton, Elisabeth Boussiron, Fabien Ménard. Lecture, Romain Debec de Lièvre. Prise de son, Éric Boissé. Documentation INA, Hervé et Vano. Mixage, Olivier Dupré. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Clémence Marie réalisé par Rafik Zénine.